Aujourd'hui, on va un peu parler de démangeaisons, mais surtout d'envie de films, car il y en a beaucoup à sortir prochainement. On est parti pour un nouvel opening week-end, toujours au Batignolles. Bienvenue, c'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a affiché complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au 7 Batignolles pour un nouvel épisode d'Opening Weekend avec autour de moi eh bien, une belle bande de chroniqueurs, à commencer par Quentin Dufournet, le directeur adjoint de ce cinéma. Salut Quentin.
Salut à tous.
À ses côtés, Tom Abrami. Salut Tom.
Salut à tous.
Et Julien Bernard. Salut Julien.
Bonjour tout le monde.
Équipe un peu réduite hein, ce soir, pas d'invités, mais on se réserve, attention, pour demain, car c'est une semaine exceptionnelle sur Débris Films, puisqu'on aura non pas un, mais deux podcasts. Demain, nous serons à l'avant-première du nouveau film de Thomas Lilti, Un métier sérieux à l'UGC Sinistré Léal, en présence de Thomas Lilti et aussi de Xavier Irigoyen, l'occasion d'ailleurs de revenir sur le beau succès de La Palme d'Or et évidemment l'attente suscitée autour de ce nouveau film, dont on reparlera évidemment aussi en fin d'émission parce qu'il fait partie du sondage de cette semaine. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur le week-end écoulé. À signaler d'ailleurs, Quentin, on parlait d'avant-première ce soir ici au 7 Batignolles, il y en a une, je crois, une petite.
Oui, tout à fait. On a le Michel Gondry, donc le livre des solutions. On est très contents. Ça se fera ce soir à 20h.
Voilà, donc ça, c'est aussi un film dont on va reparler prochainement. Mais avant toute chose, moi je voulais dire un petit mot sur ce qui anime évidemment les discussions et notamment les discussions parisiennes depuis quelques jours maintenant, à savoir les fameuses punaises de lit, les fameux parasites qui sont associés de près ou de loin au cinéma parisien suite, on le rappelle, à quelques photos et notamment une photo extraite d'un tweet d'une pseudo-influenceuse, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui a semé la panique, et notamment après moult articles autour de quelques sites dont on ne donnera pas les noms, car c'est aussi l'objet de ce petit billet d'humeur, c'est qu'il faut quand même rappeler que c'est un fléau, si on peut l'appeler fléau, qui contamine les Parisiens, et pas seulement les Parisiens, puisque ça se répand, on le voit de plus en plus un peu partout en France, depuis des années. Il faut savoir que bon nombre de cinémas prennent déjà des initiatives depuis des années, et notamment parmi les cinémas incriminés, pas mal de cinémas qui ont des traitements préventifs, mais après, ça ne concerne vraiment pas que les cinémas, donc très difficile de savoir si des gens en amènent ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire par là, c'est que les cinémas ne doivent pas être montré du doigt comme les grands méchants de l'histoire, car pour avoir bien connu ce problème il y a déjà quelques années, c'est évidemment quelque chose dont on n'a pas envie, qu'on n'a pas envie de revivre ou de vivre tout simplement, mais qu'il faut, pour lequel il faut aussi prendre des pincettes, il ne faut pas se priver non plus de vie sociale. Et je crois que là, on a quand même, on le voit là sur les, à la fois le nombre d'articles parus, le nombre de témoignages qu'on a, une sorte de petite psychose qui est en train de monter. Ce serait bien, je le dis là, que ça redescende et que certains acteurs importants du cinéma en France, à commencer par la FNCF, prennent position aussi là-dessus, car je ne comprends pas, à titre très personnel et en tant que cinéphile, que certains cinémas soient montrés du doigt assez impunément dans les médias là depuis quelques jours, et que derrière eh bien on entende des gens dire ah bah je vais pas aller là parce qu'il y en a. C'est impossible de savoir s'il y en a chez votre voisin, chez votre coiffeur, chez votre dans votre bus ou ailleurs. Donc il faut aussi apprendre à vivre avec ce parasite qui se répand, et voilà, faut prendre des précautions, il y en a certaines à prendre. Vous pouvez évidemment vous renseigner là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose, on le sent, hein, qui arrive un peu quand même dans la tête des spectateurs.
Tout à fait, nous on a eu quelques blagues au comptoir ce week-end, je suis content que ça s'arrête à des blagues, c'est-à-dire ah, vous n'avez pas de punaise de lit, vous au moins, bon on rigole jaune ouais. Un petit peu nous, mais c'est vrai qu'on est majoritairement épargnés, du coup c'est plus facile d'en parler pour moi, on a un cinéma tout neuf qui éveille peut-être un peu moins de méfiance. Mais il faut surtout, enfin, moi ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que c'est des sujets en tant que directeur de salle sur lesquels on est extrêmement sensible, très très réactif, et surtout on y fait extrêmement attention. Donc un petit message si on a des spectateurs qui nous écoutent: quand vous quittez un cinéma le soir, les salles sont sales, voire très sales, il y a des gens qui vivent dedans toute la journée. Quand vous arrivez le matin sur les séances de 11h, elles sont propres. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des gens qui travaillent la nuit dans nos salles, qui s'occupent de faire le ménage, de nettoyer, mais aussi de désinfecter, de shampouiner les fauteuils et les espaces dans le hall. Enfin c'est des choses en fait qui sont intégrées dans le fonctionnement d'une salle de cinéma. Et surtout, j'ai vu moi passer également des articles de presse, et j'ai l'impression qu'en fait il y a certaines presses qui dénoncent une certaine forme de laxisme, comme si on ne faisait pas attention dans les salles de cinéma. C'est complètement faux, et moi c'est surtout là-dessus que j'ai pu être piqué par les articles que j'ai lus. C'est que la moindre alerte, le moindre doute, les salles sont bien évidemment extrêmement réactives. On le rappelle toujours, on a un lieu qui accueille du public. Vous, le public, vous êtes au centre de nos préoccupations. On veut vous accueillir convenablement. C'est vous proposer des bons films dans des bonnes conditions avec des énormes systèmes son, oui, mais aussi bien évidemment pas attenter à votre santé. Et je ne connais pas un seul exploitant qui ne serait pas d'accord avec moi sur le fait qu'on est super attentif, quoi.
Oui, complètement. Et pour en avoir aussi discuté avec d'autres directeurs de salles, c'est vraiment pas un problème pris à la légère. Contrairement d'ailleurs à certains échos que j'ai pu avoir de la presse professionnelle, où la semaine dernière, certains prenaient encore un peu ça à la légère. Je ne citerai là non plus pas de nom, mais néanmoins, il faut voir que c'est quelque chose qui est pris à bras-le-corps depuis plusieurs années. Et j'insiste vraiment là-dessus, qui n'est pas... contextuel au moment que nous vivons aujourd'hui, et donc d'un coup ce soit montré du doigt et que d'un coup ce soit une sorte de repoussoir ou d'épouvantail de dire ah bah non, n'allez pas là, il y en aura. Moi j'ai plus envie de vous dire là concrètement, avec tout ce qui vient de se passer ces derniers jours, à mon avis les cinémas sont plus clean que jamais là. Enfin, en tout cas il y a vraiment des efforts de fait encore plus intensément que d'habitude.
C'est le moment d'y aller. Alors moi maintenant je vais aller à la séance de 11h juste après le nettoyage.
Bref, enfin voilà, c'était un petit tour d'horizon. On est à quelques jours du congrès de la FNCF. On reparlera évidemment de ce congrès qui est un moment, on le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient là ces derniers temps, très important, puisque c'est le moment où tous les exploitants se réunissent à Deauville au CID pour plusieurs jours d'échanges et de débats sur des sujets importants. Ce serait étonnant que ce sujet ne vienne pas sur la table d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, regardez, hein, je vous incite à le faire, vous tapez punaise de lit sur Google et vous allez voir que bah, ça touche des hôpitaux. Et loin d'être à Paris, ça touche éventuellement aussi des transports en commun. Enfin voilà, c'est pas un problème à prendre à la légère. Il faut aussi que les pouvoirs publics et les politiques s'en emparent de façon peut-être un peu plus forte. Voilà. Tout cela est bien dit, mais est-ce que ça a eu une incidence sur les résultats de ce week-end ? Eh bien, on va aller regarder ça, mais d'abord et avant tout, comme le veut la tradition, parler des chiffres monde et US. Julien, je crois que là, il y a vraiment eu une attirance pour un film d'horreur cette fois-ci.
Cette semaine, exactement. Alors, de toute façon, on va faire le worldwide, mais un petit point sur le marché américain, puisqu'il est à 87 millions de dollars cette semaine versus 96 la semaine dernière. Donc, une petite baisse de la fréquentation, avec en tête, on retrouve la Nonne 2, qui aux US a démarré à 32 millions versus 53. Donc une perte de 39% par rapport au premier opus. Mais c'est tout de même au-dessus de Conjuring 2021, lui qui avait ouvert à 24 millions, donc c'est plus 35%. Et c'est aussi au-dessus d'Annabelle 2019, qui lui avait ouvert à 20 millions de dollars, donc plus 60%. À l'international, il a ouvert à 52 millions de dollars. Alors il n'est pas encore sorti en France, hein. Il sortira mercredi, mais on le reverra d'ici la fin de l'émission. Et au Worldwide, ça lui fait un cumul de 85 millions. C'est moins 36% par rapport à la Nonne, lui qui avait ouvert à 133 millions, qui avait terminé en fin de vie à 365 millions. On peut Conjuring ou Annabelle, ils avaient terminé leur fin de vie autour de 200 millions de dollars. Donc on considère que c'est plutôt un bon démarrage, 85 millions de dollars pour la Nonne.
C'est clair, et ça confirme après le beau succès de La Main cet été, que le cinéma d'horreur continue sur sa belle lancée.
Ouais, on l'avait répété, c'est vrai qu'il y avait eu presque une petite année où le cinéma d'horreur avait subi un petit peu le contre-Covid, on va l'appeler comme ça. Et dernièrement, c'est vrai qu'il arrive avec des bons scores. En deuxième position, alors on fait le classement worldwide et je vous donne en même temps les résultats US, mais on a le film indien, je sais qu'il vous tient à cœur, Jawan.
Et oui, Jawan qui est, on va le voir, hein, mais a fait des belles entrées en France aussi et qui arrive deuxième donc au niveau mondial.
Alors aux US, il fait 6 millions de dollars, à l'international il est à 52, donc 58 millions de dollars, c'est juste assez incroyable, puisque si je ne me trompe pas, le dernier film indien qui était sorti aux US, lui il avait fait, ah non, alors il avait fait 6,9 millions. Donc c'est un, il est à peu près sur les mêmes bases, mais je n'ai pas les chiffres internationaux, mais à l'international, 58 millions de dollars, on peut quand même s'arrêter dessus, puisque c'est quand même assez important. Il est quand même en deuxième position cette semaine.
Ouais, moi, j'ai même 64 millions de dollars au cumul worldwide. Je ne sais pas si tu as... C'est à l'international 56, au cumul worldwide 64, donc c'est quand même...
Il y avait peut-être des erreurs en première.
C'est quand même assez, assez fou, quoi. Et d'autant plus que le film a l'air en lui-même très fou. Je ne sais pas si, Quentin, on t'a proposé de le programmer ici ou non
Non, ça n'a même pas été évoqué.
D'accord.
Mais est-ce que moi, je suis allé voir la bande-annonce, je vous avoue, je ne l'avais pas trop vu venir. Après, la bande-annonce est complètement attractive, mais je n'ai rien compris à l'histoire.
Mais, ouais, mais on a l'impression que c'est vraiment quelque chose... Bah, presque de sensitif, quoi. C'est-à-dire que t'es fait, c'est un film qui est fait pour te faire ressentir certaines choses, mais qui a l'air de partir dans des directions.
Mais quand même à noter, et c'est quand même un nouveau phénomène que le cinéma indien prend de plus en plus, puisqu'il a des vrais résultats qu'on peut annoncer. Il se retrouve en deuxième position au niveau worldwide, que c'est pas le premier, lui, c'est son deuxième film. Mmh. Il avait déjà sorti un premier film en France qui s'appelait Big Hill, je crois.
Et Tom, je crois que tu suis ça depuis pas mal de temps, notamment sur la programmation de certains sites français. Pour ça que je posais la question un peu innocemment à Quentin, mais il y a certains sites plus spécialisés dans le cinéma indien.
Oui, oui, il y a certaines villes ou certains sites dans Paris qui profitent notamment d'avoir une population d'origine indienne plus forte afin de proposer des soirées événementielles. Et alors, ce qui est assez intéressant avec le public d'origine indienne, c'est qu'il est capable, peut-être comme aucune autre communauté, de se réunir vraiment avec beaucoup d'assiduité sur une séance donnée, à un horaire donné. Et voilà, j'en avais parlé lors d'un podcast, l'année dernière. Vraiment, par curiosité, si un jour vous avez la possibilité d'aller à une séance de ces films-là, c'est une expérience dingue. Parce que parfois, nous, on ne s'en rend pas compte avec notre regard non indien. Mais parfois, à l'écran, ce sont des méga stars. Et les gens réagissent, surréagissent, se lèvent de leur fauteuil, se crient. Et c'est vraiment des comme tu disais, le mot, Julien, sensitif. C'est sensitif à l'écran, mais c'est sensitif aussi dans la salle. Et c'est ça qui est intéressant.
Et surtout, ouais. Il mélange, que ce soit action, comédie musicale, il n'y a pas de limite, en fait. C'est un spectacle complet.
C'est un spectacle no limite, exactement.
Et parmi ces salles, on peut citer évidemment le Grand Rex, qui a fait beaucoup de soirées complètement folles, hein, pour ceux qui ont assisté. Ouais. Je pense que...
Souvent, des horaires très tardif. J'ai le souvenir d'une séance d'un film indien de 3 heures qui avait démarré en semaine après une avant-première d'équipe de film. Donc il faut se rendre compte, ça a démarré vers 23h30 et puis le film finissait aux alentours de 4 heures. Le publiciste aussi sur les Champs-Élysées s'est spécialisé dans ce créneau-là et avec un certain succès.
Pathé Lavillette aussi, un peu plus récemment, mais qui fait aussi des très bons scores là-dessus, et a signalé que l'UGC Bercy, dont vous avez peut-être un peu entendu parler ces derniers jours, a fait son meilleur résultat au week-end sur ce film, ce qui n'est pas rien non plus, et ce qui est un indicateur quand même que bien ce type de cinéma, comme tu le disais Julien, réussit à s'imposer de façon beaucoup plus forte et régulière en France qu'auparavant. Alors, est-ce qu'on avait d'autres choses à dire?
Oui, évidemment,
à la troisième place.
On va pas s'arrêter maintenant.
On va retrouver,
alors, Equalizer, qui est à la troisième place sur le Worldwide. Mais
Equalizer 3 à la troisième place.
Troisième place sur le Worldwide et à la deuxième place sur le Box Office US, où il perd moins 65%. Il fait 12 millions. Souvenez-vous, la semaine dernière, il avait ouvert au même niveau qu'Equalizer ou Equalizer 2 à 35 millions de dollars.
Il passe les 100 millions au Worldwide, cumul Worldwide.
Au Worldwide, il est à 107 millions.
Ouais, c'est ça.
Tu me fais tout dans le désordre.
Ah, pardon, Aurélien. Je te devance. Il y a beaucoup de bruit dans ce hall. On sent que les Batignolles, c'est devenu vraiment the place to be, hein, Quentin.
Ouais, on accueille une petite séance spéciale pour un documentaire en présence de l'équipe du film. Il ne manquera que la réalisatrice, donc il y a un peu de vie là dans le hall.
Mais on aime ça.
C'est quel documentaire?
c'est l'océan vu du cœur.
Bien voilà, vous savez tout, ce soir il se passe beaucoup de choses au Batignolles. Alors je te laisse
donc on reprend Cumul Equalizer après 10 jours oui. Ou en tout cas pour son deuxième week-end d'exploitation, c'est $62 millions sur le box-office US, c'est moins 3% par rapport à Equalizer et Equalizer 2 qui était à $64 millions, donc il suit complètement la route, même s'il a perdu un petit peu plus puisque je vous avais annoncé moins 65%, le premier en deuxième week-end avait perdu 45% et Equalizer 2 lui était à moins 61%. Donc à l'international, il a perdu 54%. Donc tu l'as dit, au cumul worldwide, il est à $107 millions. En fin de vie, si je ne me trompe pas, le Equalizer, il était à $190 millions. Et le Equalizer 2, il était à $192 millions. Donc on va voir s'il arrive jusqu'à ces niveaux. Mais a priori, le forecast le donne plutôt à s'arrêter autour des $150 millions, 160. Mais à suivre, puisqu'il peut repartir. Et pour l'instant, il est quand même vraiment dans les pas du Equalizer. Ou Equalizer 2.
Mais il bénéficie de bonnes critiques, hein. Enfin de bonnes remontées spectateurs.
Retour sale, mais comme j'ai oublié de le dire, le Jawan aussi, quand tu vas voir les notes, les notes sont très positives.
Ensuite, Julien,
Retour des habitués, exactement. Oppenheimer, lui, il est à $890 millions, dont $22 millions ce week-end. Donc c'est le troisième film de 2023 worldwide. Il est derrière Barbie, on vous l'a dit, 1,460 milliards. Super Mario, 1,360 milliards. Les Gardiens en quatrième, il est à 845. Et Fast 10, il est à $704 millions.
Alors j'ai une question, Julien. Est-ce que maintenant, là, au 11 septembre, il y a encore un espoir que le film dépasse le milliard ?
Ça va commencer à être un petit peu compliqué, puisqu'il nous a ramené 22 millions. Donc il y a quand même très peu de chances pour qu'il aille chercher le milliard. Il va s'arrêter juste devant. Donc il terminera le troisième film pour un Nolan, puisqu'on sait que les Batman, le Rises et le Dark Knight avaient terminé tous les deux juste au-dessus du milliard.
Moi, je fais le fou, je prends le pari. Moi, je pense qu'il le passe.
T'y vas, on y va. On y va. Allez, on lance la pièce.
Il y a un amoureux fou de ce film.
C'est
oui,
et puis, surtout que ce que je pensais au terme des Batignolles, c'est vérifié. C'est qu'au retour de vacances, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit 3 heures, bombe atomique pendant les vacances, bof. Et on a, nous, en tout cas, un regain à la rentrée. Et je ne suis pas sûr qu'on soit les seuls. Il y a des retardataires qui viennent voir ce Oppenheimer. Moi, j'y crois. Le milliard, j'y crois.
C'est faisable.
Parmi les nouveautés de cette semaine, alors on était sur Box Office US, on peut signaler la sortie de My Big Fat Greek Wedding 3. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce film, le numéro
Non, alors en France, t'as eu le numéro 1 qui avait fait quand même 470 000 entrées.
Sorti sous quel titre ?
My Big Mariage à la Grecque. Mariage à la Grecque, ouais.
Très beau titre américain.
Donc, ça, il a fait quoi ? Il a fait aux US, il a fait 10 millions de dollars. Alors, oui, juste pour terminer, donc en France, le premier avait très bien marché, le deuxième s'était complètement écroulé et il n'y aura pas de troisième numéro en France. Donc, il est sorti aux
tout
US.
Comme Magic Mike d'ailleurs, oui. C'est le même exemple que Magic
Mike.
Qui vient de sortir en DVD Blu-ray. Sachez-le, ce qu'on avait, on l'avait évoqué effectivement dans une émission, tu fais bien de le rappeler.
Et comme le Book Club. Le Book Club, il y a le 1 qui avait ça, qui était sorti en France avec un succès plutôt mitigé.
Mais d'ailleurs, il comparait Book Club et My Big Fright Fat Wedding. Wedding.
Tu vois, il faut le dire lentement. Donc, il s'en sort.
Il a ouvert à combien worldwide ? Alors, il a ouvert aux
millions,
et 12. Donc oui, ok, il a fait, il est sorti aux US, on va dire. On va rappeler en tout cas les chiffres des deux premiers opus, puisque sur le worldwide, quand même, le Big Fat Greek Wedding, il avait fait $368 millions, juste incroyable. Et le 2, il avait fait $90 millions. Donc, est-ce qu'il y a une utilité à faire le 3 ? On va le savoir assez vite, mais en tout cas, pour l'instant, il a 12 millions. Un démarrage en troisième position au box-office US à suivre.
Et que devient Barbie, alors, dans tout ça ?
Barbie continue son chemin tranquillement. Bah, je te dis, il a la première place,
1,402 milliard.
Mais moi, je l'avais vu un peu plus haut. Mais bon, peut-être 1,402 milliard. Il rajoute 11 millions de dollars. Non, pas du tout. Il rajoute 6 millions de dollars au box-office US. Donc lui, il continue, j'ai envie de te dire gentiment.
Et ce qui me fait plaisir, c'est que Gran Turismo devrait atteindre les 100 millions.
Il est à 93, ouais.
Donc c'est pas mal.
Et j'avais noté aussi l'ouverture en cinquième position sur le Worldwide, le film chinois Dust to Dust.
Oui, je voulais en parler justement.
Qui a fait 22 millions.
Et Dust to Dust, alors j'ai regardé la bande-annonce. C'est un film de braquage. C'est présenté comme l'adaptation sur grand écran du plus grand braquage de l'histoire de Chine. Donc, soi-disant une histoire vraie. Enfin, en tout cas, voilà, c'est plutôt un film de braquage. Et donc, deuxième film, enfin premier film chinois au worldwide avec quand même 22 millions de dollars et deuxième film chinois dans le top 10 monde avec No More Bets dont on a déjà parlé, qui en est quand même à 516 millions de dollars.
Qui arrive sur la fin, mais voilà, comme tu dis, 516 millions de dollars.
Sur seulement 6 territoires, c'est dingue. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter?
Si, ah oui, je t'avais noté sur le box-office US, je t'avais noté le bilan juste avant, au total de cette semaine. En tout cas, on est à 5,37 milliards de recettes. Donc, c'est une hausse de plus 26%. Non, pardon, on reprend. On est à 6,8 milliards. 5,37, c'était en 2022. Donc, on est à plus 26%. Et on est à moins 15% par rapport à 2019, lui, qui était à 7,97 milliards sur la même période. Et au niveau des distributeurs, dans le top 5, donc on retrouve Disney, Century, Searchlight, Star qui sont à 1,63 milliard, suivi derrière par Universal plus Focus, 1,51 milliard, donc c'est quand même très serré. Qui va l'emporter d'ici la fin de l'année?
Les paris sont ouverts encore.
Troisième position, Warner, 1 milliard, Sony, 873 millions et Paramount, 700 millions.
Donc attends, Warner, 1 milliard, en fait,
Barbie.
C'est quasiment que Barbie, enfin, c'est ça en fait, enfin, c'est 1 milliard 4 même, puisque Barbie est 1 milliard.
Bah oui, c'est bizarre, tu as raison, puisqu'il a 1 milliard 4. Ouais. Oui. Oui, mais c'est sur le box-office US, pardon. Et au box-office US, tu me fais, t'essayes
de
me... Mais par contre, ce que tu peux dire,
vous,
sur le milliard...
Mais je comprends plus ces histoires de milliards.
Sur le milliard de Barbie, il y a 771 millions qui viennent de Barbie.
Très bien, tout est clair.
Et non de Blue Beetle.
Oui, mais c'était ce que j'allais dire. C'est, malheureusement, ça montre aussi le poids de DC, des quatre films DC dans l'année de Warner.
D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait la bande-annonce d'Aquaman
qui venait de sortir.
Mais bon, on verra si ça peut ou non relancer d'ici. Bah, écoute, je crois qu'on a été le plus complet possible sur l'international. Quentin, tu avais un truc qui te venait à l'esprit?
Oui, simplement que c'est vrai que je suis surpris de la. Enfin, pas surpris, mais qu'effectivement, le cinéma venant d'Inde pèse assez lourd parce que depuis janvier 2023, moi, c'est une colonne que je regarde beaucoup, c'est les territoires des origines des films. Ouais. Et en fait, l'Inde fait partie des cinq nationalités qui se glissent dans le top 10 depuis le début de l'année. Donc, USA, normal, on les a vus plein de fois. La Chine, on les a vus très souvent. Le Japon, on a glissé un ou deux.
La Corée.
Il y a eu un Coréen cette année. J'ai eu un doute.
Peut-être.
Donc, la Corée, la France, avec les Mousquetaires notamment qui étaient rentrés. Il me semble, et
novembre aussi l'année dernière qui était rentré dans le
et top donc 10. Maintenant l'Inde, donc laisser un truc quand même très restreint de se retrouver dans le top 10 mondial, et effectivement l'Inde y est, donc effectivement un cinéma à suivre, hein.
À la deuxième place, on le rappelle, de cette semaine, donc c'est beau effectivement. Allez, on parle tout de suite des chiffres France, justement, c'est parti, une petite pause.
Super beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Retour en France donc avec ce box-office qui faisait un peu grise mine ce week-end, avec toutefois des contrastes assez importants, hein, puisque peut-être commencer d'abord justement par toi Quentin, qui me disait que tu avais vécu un week-end assez fort au Batignolles, en partie grâce à la météo.
Exactement, nous avec les températures qui étaient vraiment caniculaires à Paris, on a eu une grosse vague de spectateurs qui est venue profiter de nos clims. Ça nous a donné notamment une très 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 grosse 16 heures hier, où on finit avec une journée à un peu plus de 1200 spectateurs sur la journée, et surtout répartis de manière assez, assez équitable. C'en est presque troublant. On a fait des quasi-complètes sur la 16h dans l'ensemble de nos salles, hors Sfera, qui a quand même une capacité qui est tellement énorme que c'est un peu plus difficile de la remplir. Mais oui, on a fait un très très gros week-end qui a clairement été guidé par les conditions météo. L'avantage qu'on a avec nos spectateurs ici, c'est qu'ils ne s'en cachent pas quand ils arrivent. Ils le disent, on est venu pour le frais.
Et voilà, quelques heures au frais, ça fait du bien. Pour le coup, les films longs en bénéficient peut-être encore plus.
Exactement, puis je me dis que ça doit générer des bonnes surprises. Il y en a certains qui ressortent en se disant « J'attendais rien d'autre que du frais, finalement j'ai vu un super film. »
C'est le double effet qui se coule. Et ils viennent avec des pulls ou pas?
Non, quand même pas. Non, ils prennent des boissons en plus. Enfin, ouais,
C'est plutôt pas mal.
C'est très vivant ce week-end dans le hall.
Est-ce qu'il en a été de même au niveau national, Tom?
Au niveau national, c'est pas non plus la fête, hein. C'est clair que on se doute bien que la rentrée plus la canicule font pas forcément bon ménage pour la fréquentation globale. Et la Coupe du Monde de rugby qu'il faut évidemment pas négliger. On peut rajouter aussi la finale de l'US Open, la finale de la Coupe du Monde de basket, même si la France n'était pas concernée. Ça fait quand même beaucoup d'événements à côté, hein, mine de rien.
Et des audiences records pour le rugby.
Des audiences, 15 millions de spectateurs pour le rugby. Donc forcément, ça impacte.
Et aussi sur les autres matchs, pardon, je t'interromps, ouais. Mais aussi plus de 5 millions de téléspectateurs. Enfin voilà, c'est quand même pas rien.
En tout cas, les soirées de vendredi soir, elles ont été fortement impactées, évidemment, par le match de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande, en ouverture de la Coupe du Monde. Qui a lieu en France en plus. Donc voilà, on se retrouve à l'issue de ces 5 jours avec une fréquentation en net recul à 1,3 million d'entrées au total, donc un recul de moins 40% par rapport à la semaine dernière, au week-end dernier. Si on le prend par rapport aux 5 dernières années, c'est également moins bien, à l'exception de, évidemment, l'année 2020, mais on est à moins 4% versus 2022, moins 14% versus 2021, moins 29%, moins 31% pardon, versus 2019.
Non, donc... mais surtout, c'est le plus mauvais résultat de l'année. Alors, on est plutôt habitué que ce soit la semaine de rentrée la semaine la plus faible de l'année. Mmh. Et comme tu le dis, ça veut dire que là, c'est des chiffres qui sont en dessous sur les 5, si on doit remonter sur les 5 dernières années, et en dessous de 2022 et 2021, pour dire que c'était quand même une semaine très faible en termes d'audience.
Et évidemment, donc si on prend tous ces phénomènes-là, on ajoute le fait que c'est une semaine de sortie sans grosse locomotive américaine, sans non plus énorme locomotive française. Donc forcément, on compte beaucoup sur les continuations. Et donc logiquement, c'est une continuation qui arrive en première position du top. Un petit leader pour le coup, Equalizer 3, qui est leader avec seulement 146 000 entrées, Julien.
Equalizer, alors oui, ouais. Il est sur un cumul de 533 000. Alors on va le comparer bien sûr aux deux autres Equalizer. Au bout de 10 jours, le premier avait fait 494, donc c'est plus 8%.
Alors j'ai 525 000 hein, au cumul. Alors, on n'a pas tout à fait le même cumul, mais bon, ça doit se tenir peut-être à l'export.
Oui, tu peux partir sur 525.
Non, c'est sûr. Ah oui, c'est une marge liée aux résultats d'Homtom qui sont souvent pas.
Exactement, sujet qu'on pourra aborder.
Ouais. C'est vrai que, dans un prochain podcast, c'est
pour expliquer ça.
On y pense, voilà, on vous expliquera tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a différentes façons de calculer le cumul, soit en incluant les dom-toms, soit en ne les incluant pas. Enfin voilà, c'est un peu.
Donc 525 sans inclure les dom-toms et 537 000 en incluant les dom-toms.
Et ça se joue, c'est ça qui est fou, sur l'ensemble du week-end, à moins de 400 entrées
ouais. avec Anatomie d'une chute qui, contrairement à ce qu'indique son titre, ne chute très peu, puisqu'il perd que 31% de ses entrées. C'est la meilleure tenue du top 30, tout simplement. Donc encore vraiment une belle opération pour la Palme d'Or de Justine Triet. Au total des entrées à l'issue de ces trois mois de week-end, on est à 755 000 entrées. Le rêve du million d'entrées n'est pas perdu, hein, loin de là.
Il va passer les millions facilement. Hein. Moi, je mets la pièce tout de suite. Hein.
Après, est-ce qu'il ira jusqu'à 1,5 million, ça,
C'est la question. Ouais, pour l'instant, il faut le mettre autour d'un million deux, mais il peut aller plus haut. En tout cas, c'est déjà le meilleur score pour un film de Justine Triet. Ouais. Au niveau des Palmes d'Or, il a déjà battu Triangle of Sadness, Tom...
Sans filtre.
Il a déjà battu Titan, il a battu Dipan.
Et il a même battu, je crois, ou en tout cas, il est à peu près au même niveau que Jeanne Dubarry en fin de carrière.
Ouais, exactement. Il est à peu près au même niveau que Parasite, qui était à 740 000 au troisième week-end. Et la vie d'Adèle, il est au-dessus de 9%, puisque la vie d'Adèle, en trois semaines, était à 689 000. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ne passe pas le million. Même si, comme vous le savez, on va le voir, et qu'il y a beaucoup de bons films qui arrivent dans les semaines... Donc, directement mercredi.
À noter également que c'est le film qui a le plus grand nombre de copies du top 30 avec 728 copies. Est-ce qu'on peut en déduire que c'est aussi le film qui a été le plus diffusé cette semaine? Je pense que les deux chiffres sont à peu près liés.
Il y a eu une volonté d'élargissement net de la part du distributeur sur la troisième semaine. Il y avait cette stratégie tout de même de préserver la sortie sur les deux premières semaines à des sites très forts et une volonté déjà dès la troisième et on se voyait déjà en deuxième d'élargir un petit peu et là vraiment ça élargit bien plus en troisième semaine histoire de servir un maximum de salles et notamment de profiter du faible nombre de nouveautés pour continuer à être très très exposé et force est de constater que au 12 septembre c'est Anatomie d'une chute le vainqueur dans la rentrée.
Alors, on disait la semaine dernière qu'il y avait un premier duel, parce qu'il va y en avoir d'autres, côté français, entre deux films dont l'un a fait l'objet d'un podcast qui lui était quasiment dédié, c'était Tenez en famille, évidemment, le nouveau film de Nathan Ambrosioni, que vous pouvez bien sûr rattraper si vous n'avez pas pu l'écouter. On remercie encore Studio Canal et Nathan Ambrosioni qui était, je trouve, très riche dans ses propos. Et donc c'était entre Tenue en famille et Vision, le nouveau film de Yann Gozlan distribué par SND. Et bah, là, on a un vainqueur très net qui n'était pas forcément celui auquel on pensait la semaine dernière au premier abord.
On trouvait la sortie en off très ambitieuse hein, de Tony, ouais. De Tony en famille, puisque le film est sorti sur 400 écrans.
Il faut quand même rappeler que jusqu'à présent, Nathan Ambrosioni avait signé qu'un seul film qui avait fait un peu moins de 8000 entrées distribuées à l'époque. 15 000 en fin de vie. Alors, il a doublé alors, parce que j'avais pas ce chiffre, mais effectivement, alors autant pour moi, c'est 15 000 pour les drapeaux de papier. Mais quoi qu'il en soit, 15 000, ça reste faible. Et par rapport à une sortie comme celle-ci, alors là, évidemment, le cast était aussi plus fort, en tout cas avec Camille Cotin, mais le reste du film est quand même un film relativement minimaliste, resserré sur une famille. Et,
et avec une moyenne de 235 entrées par copie et un cumul à 95 000 entrées à l'issue de ses 5 premiers jours. Le pari est pour le moment réussi pour le film de Nathan Ambrosioni et pour Studio Canal, puisqu'il s'impose ce week-end en tête des démarrages.
Devant donc Vision.
Devant donc Vision, qui lui forcément déçoit. 540 copies pour le film de Yann Gozlan. On l'attendait évidemment avec beaucoup d'impatience. Hein. Yann Gozlan sort de Boîte Noire avec Pierre Niney qui avait réalisé 1,5 million d'entrées. Donc voilà, Vision était attendue à une date qui n'est pas forcément la plus simple, mais force est de constater qu'avec 82 000 entrées au compteur à l'issue des 5 premiers jours, le film déçoit, tout simplement.
Et je précise, les drapeaux de papier, Julien, c'était bien 7 882 entrées, si je me réfère à CBO, et pas 15 000, mais bon.
Tu as raison, on vérifie en même temps. Aujourd'hui, voilà. Ouais, aujourd'hui on va prendre tes chiffres.
Non, mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant dans ces deux sorties, c'est qu'il y en avait un qui sortait d'un film qui avait surperformé par rapport à ses précédents, et l'autre qui sortait d'un film qui avait quasiment pas du tout rencontré de public, et que là, finalement, bah, c'est la tendance inverse à celle à laquelle on aurait pu penser qui s'est produite. Donc, c'est ce qui montre aussi que dans un contexte où ça fonctionne pas très très fort pour tout le monde, certains films arrivent à surperformer aussi.
Et puis en plus, ce qui est d'autant plus intéressant de constater, c'est que ça va à rebours des tendances récentes sur les films français, où on se rend compte que les films à tendance familiale et sociale marchent moins, quand les films à tendance thriller marchent mieux. Ouais. Le succès de Tony en famille et le relatif échec de Vision, finalement, inverse la donne. Donc c'est vraiment un cas intéressant à étudier.
Ouais, c'est vrai que sur les derniers thrillers, que ce soit on avait Novembre qui avait ouvert à 500 000, on avait même Compromat qui avait ouvert à 175 000, 126 000 pour Le Torrent. Si on compare également aussi les budgets, celui de Tony en famille, il est à 4 millions. Pour Vision, c'est 9 millions. Donc forcément, les attentes sont différentes. Et puis, on compare directement Vision à Boîte Noire, lui, qui a terminé à 1,2 million. Donc, c'est vrai que c'est... Voilà, il y avait une attente, il y a une déception, mais c'est la difficulté du cinéma. Rien n'est jamais acquis. Et un succès n'entraîne pas forcément un autre succès, que ce soit le même réalisateur, des acteurs...
Ou le même distributeur, même si on peut noter quand même que Studio Canal réussit une fois de plus plutôt pas mal cette sortie.
Oui, puis c'est des longs métrages unitaires. Et là, je pense qu'il y a aussi, en tout cas nous, c'est ce qu'on a observé en caisse ce week-end, il y a la question de la lisibilité du film en lui-même. Tony en famille, j'ai l'impression qu'il a très facilement trouvé son public. J'ai eu zéro question, en fait. Les gens venaient, ils demandaient leur billet. Vision a généré beaucoup, beaucoup plus d'interrogations, notamment sur mon public qui est un peu plus âgé, qui me demandait est-ce que ça fait peur.
Oui.
Voilà. Et là, je pense que c'est une question de communication, c'est la bande-annonce.
Ah, je suis assez d'accord.
Ce qui allait autour du film. Et en fait, il y a des films comme ça de temps en temps qui génèrent beaucoup de questions en caisse sur mais qu'est-ce que c'est ? Vision rentre dans la catégorie des films où on a eu énormément de spectateurs qui nous demandaient ce que c'était.
Et tu considères que c'est pas une bonne chose du coup ?
Alors, forcément, en fait, c'est surtout que nous, ici, où on a une majorité, et c'est pas un secret, les cinémas poussent de plus en plus les ventes à distance, donc les gens, en fait, ils se débrouillent pour acheter leurs billets, ils les achètent en ligne. Donc, forcément, on a beaucoup moins de ventes en ligne sur un film comme Vision, contrairement à Tenue en famille, où les gens, en fait, comme je le disais, ils se présentent, ils ont déjà leur ticket, ils savent très bien ce qu'ils vont voir. Vision, j'ai l'impression que c'est un public soit qui connaissait et qui a été marqué par Boîte Noire, donc en fait, un public qui est peut-être plus averti sur l'industrie cinématographique, les réalisateurs, les auteurs, les producteurs, etc. alors que le tout public a eu beaucoup plus de mal à comprendre de quoi il s'agissait, malgré le fait que moi, la bande-annonce de Vision, elle est dans mon hall sur deux écrans distincts, donc ils peuvent très bien trouver l'information, mais apparemment, la bande-annonce et le résumé sont pas suffisants pour se faire une idée de est-ce que mon enfant de 12 ans peut y aller, est-ce que c'est pas trop prenant, est-ce que c'est... voilà.
Bon, alors en tout cas, voilà, on a vu ces deux premières sorties françaises, on va en voir d'autres tout à l'heure, mais c'est pas tout ce qui s'est passé non plus dans le box-office France. Hein. On a aussi des pas mal de continuations, Tom, qui ont bien brillé encore.
Ouais, s'intercale entre Tony en famille 3e et Vision 5e, Barbie, notre Barbie, donc, qu'on suit depuis désormais 8 semaines.
Qui prend un coup quand même là avec l'écart par rapport à la semaine dernière.
Le petit moins 58%, c'est la plus grosse chute pour Barbie depuis sa sortie. Il fait évidemment assez mal, mais on s'y attendait. Il ajoute seulement 90 000 entrées à son cumul désormais de 5 678 000 entrées. La barre des 6 millions d'entrées reste tout de même atteignable pour Barbie.
Et son rival, ou en tout cas son compagnon de sortie.
Son compagnon de sortie, rival estival, Oppenheimer, le continue à le suivre à la trace, en 6e position, 8e semaine également, 74 000 entrées pour un total de 4 259 000 entrées. On le rappelle, l'objectif désormais pour Oppenheimer, c'est d'aller chercher de devenir le deuxième succès de Christopher Nolan en France, en passant devant Dark Knight Rises, qui avait fini sa carrière à 4,4 millions d'entrées.
Eh ben, on n'en est pas loin, ça s'approche. Grand Turismo, on en parlait tout à l'heure côté international, et il passe à une barre symbolique en France.
Ouais, ton film préféré du moment, tu ne t'en caches plus. Hein.
Je l'ai vu en IMAX, et je dois dire que, alors là, je ne sais pas qui il faut blâmer, mais je trouve que la version IMAX n'a pas été assez mise en avant. En tout cas, on sait qu'il y a une sortie compliquée en France qui est sortie largement avant les États-Unis. Mais la version IMAX était vraiment très impressionnante.
Donc en tout cas, le film rencontre son public en France, hein, puisqu'il vient de franchir la barre des 10 millions d'entrées. Et on sent encore qu'il a de la ressource, hein, qu'il en a encore dans le ventre, Gran Turismo. Donc maintenant, quoi espérer, Julien? Peut-être 1,2 million, 1,3 million dans le meilleur des cas pour Gran Turismo.
Je ne l'avais pas mis aussi haut, mais il me surprend de chaque semaine. Après, je t'avoue, c'est pareil. Il a pris pour moi un petit coup. Ouais, 1,2, ça me semble être le max, mais on n'est plus à l'abri d'aucune surprise. C'est beau, le cinéma.
Comme d'ailleurs pour les films d'animation. Alors, est-ce que les As de la Jungle ont survécu à la rentrée?
Ah bah ça, forcément, on s'en doutait. Ça allait être assez violent, et c'est le cas. Moins 72% pour les As de la Jungle, qui est en 8e position.
Et pas aidé justement par un week-end compliqué.
Ouais, week-end compliqué. En tout cas, maintenant, il passe la barre des 700 000 entrées, mais ça va quand même être compliqué d'aller bien au-delà. Une fin de vie autour de 750 000 entrées se profile pour le film distribué par SND.
Et on a quand même eu une sortie qui se...
Mais il a déjà passé le premier As de la Jungle, je crois qu'il était à 692. Hein, donc
c'est déjà un bel exploit.
Et qui était sorti en 2017. Moi, je pensais que la franchise, elle était déjà finie. Donc non, moi, je trouve un score...
très impressionnant. Ouais. Ouais. Et on a un film quand même parmi les nouveautés, un film qui a réussi à se hisser dans le top 10 d'un distributeur indépendant qu'on connaît bien.
Tout à fait. Inside, donc c'est un film d'horreur américain avec un cast uniquement indien. Mais un film américain, voilà, ouais. il parle en anglais, mais avec un cast originaire d'Inde, mais qui habite aux États-Unis. Donc 36 000 entrées pour le film produit par les producteurs de Jordan Peele, notamment.
Donc plutôt pas mal là encore, hein, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure sur le cinéma d'horreur. Et puis pour clôturer ce top 10.
Hypnotique, le film de Robert Rodriguez qui continue de faire sa belle carrière en France, on le rappelle. Hypnotique est un des meilleurs territoires mondiaux pour le film de Robert Rodriguez avec Ben Affleck. 320 000 entrées pour le film sorti par SND. Bravo à SND, ils ont fait un très joli coup sur ce film.
Alors parmi les caps symboliques qui ont été franchis, signalons quand même un important pour un film d'animation qui a perdurer pendant tout l'été, c'est le film Pixar.
Ça y est, on en parle depuis 8 semaines peut-être. On se dit ce cap des 3 millions, il va le franchir avant la fin de l'été. L'été se termine dans 10 jours maintenant, et ça y est, c'est fait. 3 millions 22 000 entrées pour Élémentaire. La mission est plus que accomplie pour Disney et le film Pixar.
Et Blue Beetle, qui à son niveau passe aussi un petit cap.
Alors Blue Beetle, il faut remonter un tout petit peu et aller chercher en 12e position. Il passe la barre des 500 000 entrées. qui lui aussi évidemment prend un petit coup, hein, quasiment moins 70% en quatrième week-end. Mais j'ai envie de vous dire, l'essentiel est assuré.
Il passe devant Shazam.
Ouais. Les meubles sont sauvés.
Et à noter aussi qu'on parlait de la faible chute d'anatomie d'une chute, mais Yannick perd aussi peu d'entrées puisqu'il est à moins 33% cumule désormais 386 194 entrées. On a déjà dit la semaine dernière combien ce résultat a été exceptionnel, au point que c'était même le plus gros succès de Quentin Dupieux à date. Voilà, à voir si Dali,
en attendant Dali, ouais,
exactement, qui était présenté.
Mais là,
à
il faut qu'il passe la barre des 400 000, mais il va y aller de toute façon.
Ouais, il va certainement y aller car la carrière de Yannick n'est pas terminée, loin de là. Et bien sinon, on parlait tout à l'heure du film indien Jawan, hein, qui a fait trembler le box-office monde. Eh bien, il se classe dans les 20 premiers. Hein.
Ouais, 16e position, évidemment, comme on peut s'en douter, petite combinaison, 69 copies, mais une belle moyenne par copie de 278.
La deuxième meilleure.
C'est ce que j'étais en train de compter, ouais. Ouais, la deuxième meilleure combinaison. Donc 19 000 entrées pour le film sorti par un distributeur qu'on connaît peu.
Jawan, le premier film de ce réalisateur, je ne vais pas vous donner le nom, hein. Je ne vais pas me ridiculiser maintenant. Il avait fait 20 000 entrées, donc on va voir s'il arrive à surperformer justement, parce que comme les retours salles sont positifs, est-ce qu'il va augmenter sa combinaison ? On en parle, je trouve, un peu plus.
Alors, en tout cas, c'est une belle opération pour Friday Film, et tu parlais de combinaison, de périmètre de sortie du film, et c'est vrai qu'il a un COEF que de 1,3, et on voit qu'il y a quand même une certaine frilosité, ouais, à programmer le film au-delà de l'Île-de-France.
De Paris Périph.
Est-ce que ça va changer avec ce succès mondial et français également ? On va voir ça.
C'est en tout cas quasiment deux fois plus que Anti-Squat, le film de Nicolas Silol sorti par Diafana avec Louise Bourgoin, qui réalise seulement 10 800 entrées à l'issue des 5 premiers jours.
À noter également le film Le Château solitaire, film d'animation de Rozum, qui fait autour de un peu moins de 20 000 entrées, 17 270. Et également Le Ciel Rouge, plus précisément, qui fait 21 175.
Film de Christian Petzold, on le rappelle.
Exactement, merci Tom.
Anti-Squat a un peu de mal aussi à trouver son public.
Et alors, il y a une chose aussi dont je voulais parler, parce que on l'avait évoqué la semaine dernière, mais peut-être un peu trop rapidement en fin d'émission, c'est que ne sont pas inclus dans ces entrées les avant-premières, et notamment les avant-premières faites dans le cadre de semaines d'avant-première. Vous avez vu que chaque circuit a désormais sa semaine d'avant-première de rentrée. Là, c'était UGC qui ouvrait le bal la semaine dernière avec moult films, en fait un film par jour. Et ces entrées n'apparaissent pas dans le top week-end, puisque elles sont comptabilisées dans la semaine d'avant-première UGC qui s'appelle la semaine Aime et Découvre. Et de toute manière, les avant-premières en règle générale n'apparaissent pas non plus dans ce top week-end, qui est un top, on le rappelle aussi pour ceux qui nous écouteraient depuis peu, déclaratif distributeur, c'est-à-dire que chaque distributeur déclare auprès de Comscore et des différents médias les entrées qu'on fait le film après avoir recensé l'ensemble des entrées. Et donc ce déclaratif est évidemment en adéquation avec ce qui s'est réellement passé, puisque de toute manière après c'est les entrées CNC qui feront office de juge de paix, mais c'est très souvent évidemment très proche des entrées déclaratifs distributeurs. Mais quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire par là, c'est que le distributeur ne déclare pas ses avant-premières avant le premier jour. C'est d'ailleurs tout le débat qu'on a pu déjà avoir autour de ce premier jour, qui inclut ou non les avant-premières, mais qui doivent bien être inclus quelque part.
Alors, on les inclut dans le premier jour, mais on note en dessous, par exemple, on va mettre 70 000 entrées, dont 10 000 entrées en avant-première. Par exemple, la Nonne a fait une opération d'avant-première vendredi soir.
Ouais. Qui a plutôt bien marché, d'ailleurs, je crois.
Qui a plutôt bien marché. Ils avaient une moyenne par copie de 108. C'était un petit peu moins que le premier, parce que le premier, ils avaient une moyenne par copie de 190. Mais ça restait un très bon résultat, parce qu'ils avaient fait plus de 30 000 entrées. Et donc ce sera inclus dans le premier jour. Par exemple, si on vous dit premier jour la Nonne 100 000 entrées, et ben c'est 70 000 plus 30 000 entrées d'avant-première.
Alors en fait, ce qu'on appelle le premier jour, c'est un cumul à l'issue du premier jour, cumul comprenant en compte évidemment les avant-premières faites ce jour-là et les avant-premières faites précédemment.
Et puis tu peux rajouter aussi pour les films français, il y a toutes les tournées qui existent.
Voilà. J'allais y venir parce que on peut d'ores et déjà vous dire que certains films marchent déjà très fort. Des films qui arriveront là dans quelques semaines, dont on vous reparlera. Bien entendu, le film d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Une année difficile, qui fait déjà beaucoup d'entrées en avant-première, mais ce n'est pas le seul, puisqu'il y a aussi
Second tour,
le film d'Albert Dupontel, mais aussi Trois jours max,
exactement.
Qui cartonne aussi avec équipe en tournée.
Complètement cramé,
donc la tournée a déjà démarré aussi. Donc voilà, ça c'est des entrées dont on ne vous parle pas, mais qui, d'une certaine façon, sont aussi à prendre en compte dans le cumul fait ce week-end au global des gens qui sont allés au cinéma.
Ah, c'est des gens qui vont au cinéma, qui achètent leur place, qui voient le film, donc ça paraît tout à fait
logique. Par exemple, ce soir, ici, Bob Batignolles, ceux qui iront voir le Michel Gondry ne seront comptabilisés que jeudi matin à l'issue du premier jour du film de Michel Gondry et pas dans le top semaine. C'est une petite subtilité qu'il faut quand même avoir en tête quand on vous parle de tous ces chiffres. Est-ce que Tom, tu voulais ajouter quelque chose sur la fin du top? Non, rien de particulier.
Non, peut-être simplement côté RSC, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler la semaine dernière, de Ama Gloria chez Pyramide qui fait son petit bonhomme de chemin, qui perd peu en deuxième week-end, moins 34%, et qui va passer tranquillement les 50 000 entrées.
On avait dit que Reality avait passé les 100 000. C'était déjà fait, non, je crois pas que c'était pas fait le week-end dernier.
Très beau succès pour Métro.
Ouais.
Et bien maintenant, c'est l'heure de se tourner vers la semaine prochaine. Vers la semaine prochaine avec...
Une belle semaine.
Une belle semaine qui s'annonce. Et on vous le disait en début d'émission, mais on sera demain à une autre avant-première, donc celle du Thomas Lilti pour Un métier sérieux. Un métier sérieux qui sera évidemment scoté à la loupe au niveau de ces chiffres. Et il était en confrontation sur notre sondage avec l'été dernier, le nouveau film de Catherine Breillat, La Nonne 2, donc La Nonne, la malédiction dont on vous parlait tout à l'heure, et le livre des solutions de Michel Gondry, dont on a également parlé de nombreuses fois dans cette émission. Alors malheureusement, il n'y a que quatre possibilités, on n'avait pas pu inclure
Mystère à Venise.
La mort n'était que le début, c'était écrit d'ailleurs.
Peut-être que tu viens de spoiler le film.
C'est, la mort n'était que le début.
Peut-être aller me coucher vite aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est le livre des solutions qui s'impose d'une courte tête, hein, 41% contre 32% pour Un métier sérieux.
Ça annonce une belle bataille en salle.
Voilà, en tout cas pour le 9h, ça s'annonce assez épique, hein, le pacte versus The Jokers. Et l'été dernier de Catherine Breillat qui est à 16% et La Nonne à 11%. Bien entendu, les résultats de La Nonne sont à prendre avec des pincettes parce qu'on sait bien que ce public n'est pas forcément celui qui vote comme ça pour le sondage du
public qui se réveille très tard.
Voilà, public qui se réveille
au cinéma très tard, qui se réveille très tard.
Alors Tom, ce ne sont pas les seules sorties de la semaine.
Non, on les a déjà bien balayées, mais donc on rajoutera à ces quatre-là Mystère à Venise, donc de Kenneth Branagh, sorti par Disney dans la série Hercule Poirot, Agatha Christie. Donc l'été dernier, on l'a dit, Le Grand Chariot chez Ad Vitam. Colargol, l'ours qui chante en animation, Le secret de la princesse de Cardigan avec Dariel 2 et avec Ariel Dombal sorti par ARP.
Le film d'animation Colargol, l'ours qui chante, c'est le distributeur, attends, je vais te le retrouver.
CPF,
Cinéma Public Film. Oui, voilà.
C'est pas les comptes de formation.
Oh là là, on les salue en tout cas.
On salue aussi VO Distribution, VO qui est connue pour être une entente de programmation de salles de cinéma, qui se lance dans la distribution cette semaine avec un film d'animation de Clara Bouffartigue qui s'appelle Lou, il y es-tu. Alors, c'est un film d'animation, non, c'est pas un film d'animation, pardon, c'est un documentaire. L'affiche pourrait laisser penser que c'est un film d'animation, mais c'est bien un documentaire.
Sur l'animation ?
Non. Loup, y es-tu ?
Ça n'a rien à voir avec l'animation. C'est sur les loups, peut-être.
Chez les alchimistes, on a L'océan vu du cœur. Donc, on en parlait tout à l'heure, documentaire dont l'avant-première a lieu ce soir au Batignolles. Et enfin, on termine avec La hija de toda la rabias, un film du Nicaragua chez Tamasa. Et puis, c'est déjà pas mal.
C'est déjà beaucoup. Donc on vous attend évidemment nombreux et nombreux.
Pas facile de faire un pronostic là, sur cette semaine entre Lannon, Mystère à Venise, Un métier sérieux ou Le livre des solutions. Je pense que sur ces quatre films peuvent être assez serrés, mais pas facile.
En tout cas, la moyenne des cinq dernières années était sur cette semaine en particulier de 2 millions d'entrées. Vu les films, bon, il y a en tout cas un potentiel bien plus fort que la semaine dernière, Julien. C'est le potentiel que
on peut aller chercher peut-être les
2 millions au week-end.
On l'espère. Alors, c'est vrai que si tu reprends, on sait qu'on a un métier où on regarde les comparables, on regarde ce qui s'est...
on a un métier sérieux.
Ouais. On a un métier sérieux. Oui, il est en forme, Tom. Ça devrait être plutôt Lannon qui devrait être en tête. Après, à voir, avec les moins 40%, le premier avait démarré, je crois, à plus de 550 000. Thomas Lilti,
la plupart de ses films ont fait plus d'un million. Enfin, en fait, tous ses derniers films ont fait un peu plus d'un million.
Ouais. Avec des démarrages différents.
Voilà. Et le livre des solutions, s'il renoue avec... Parce que Michel Gondry, ça fait longtemps qu'il a pas
Depuis 2013.
Ouais, c'est fou, hein, c'est passé vite.
Et encore, puisque c'était L'écume des jours, c'était un film qui avait un budget de 20 millions et ça terminait à 900 000 entrées.
Microbe et Gasoil,
mais c'était en 2015. Ouais, Microbe et Gasoil en 2015.
C'était un succès, Microbe et Gasoil.
Je parlais
succès, ouais.
D'accord, je pensais que tu parlais de ça.
Non, que j'allais dire, c'est qu'il n'a jamais passé, je crois, les 800 000. Il n'a jamais fait plus de 800 000, alors que bon.
Alors je ne sais pas, je ne sors pas le film, mais déjà, s'il arrive à aller chercher du 500 000 entrées, je trouve, sur le livre des solutions, ça serait déjà un super score.
Ce qui est intéressant, c'est que le livre des solutions, il y a Pierre Ninet qui récemment n'est pas passé sous les 700 000. Donc là, est-ce que justement l'alliance des deux va permettre à Michel Gondry de peut-être faire son plus gros succès? C'est tout ce qu'on souhaite à la fois au film et aux Jokers. On verra ça évidemment la semaine prochaine. Rendez-vous sinon dès demain pour une émission spéciale, je vous le disais, autour d'un métier sérieux. Merci encore Quentin, bonne semaine.
Mais bonne semaine à tous.
Bonne punaise.
Venez au ciné.
Ne rigolons pas avec ce sujet. N'hésitez pas en tout cas.
Un sujet sérieux.
Voilà, un sujet sérieux. Et bon, on verra comment tout ça évolue. Merci Tom.
Merci à tous.
Merci Julien.
Merci tout le monde.
Et à très vite. Merci.